Donc, première rencontre avec Henri Galinier dans les années 70. Vous, vous êtes resté ensuite à la DRAC toutes ces années. Et à quel moment avez-vous commencé à enseigner à l'université ?
Alors, je suis d'abord passé directeur des Antiquités, avant que ça s'appelle conservateur régional des Antiquités.
D'accord.
En 1983, je crois. Oui, il me semble. Et au bout de quelques années, j'étais un peu... Je n'étais pas en très bon terme avec la centrale parce que je n'étais pas orthodoxe dans ma manière de faire. Parce que justement, j'ai toujours été assez autonome. Je n'ai jamais eu de vrai patron au sens strict. Puisque mon directeur des antiquités antérieur, Gilbert Charles Picard, il me laissait faire ce qu'il y avait à faire. Et tant que tout allait bien, il s'en fichait complètement. Il ne venait jamais pratiquement dans la région. Et pareil avec le suivant qui était Yves de Quiche. Où en étais-je ? J'ai perdu le fil, excusez-moi.
C'était sur quand vous avez commencé à enseigner ?
Oui, je suis passé, comme ça n'allait pas relativement bien, ils ont commencé à penser à m'écarter, à me remettre dans un placard si possible, parce que je les gênais comme dans mon activité comme directeur des antiquités, pour une région qui était, avec la région Rhône-Alpes, la plus active en archéologie, si je puis dire, pré-préventive. C'est-à-dire qu'on faisait de l'archéologie préventive avant la lettre. Dans deux régions, un peu en concurrence, parce qu'on n'avait pas la même approche. La région Rhône-Alpes, avec la SFARG, et la région Centre, avec Yves de Quiche, d'abord, et puis après avec moi. Comme la ligne que je suivais, et notamment les relations avec les collectivités territoriales en faisant créer des postes par les collectivités, mais en essayant d'être en partenariat et non pas en domination par rapport à ces... Non, ça, ça n'a pas plu du tout, alors que c'est venu au goût du jour avec le ministère du Rafour dans les années 90, je crois. Oui, ça devait être dans les années 90, du Rafour. Fin des années 90 ou début des années 2000, je ne me souviens plus. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas au goût du jour à l'époque. Et donc, ils ont commencé à se dire qu'ils allaient se débarrasser, entre guillemets, de moi. Et j'ai eu la chance, grâce à un ami, de voir que je pouvais me demander un détachement au CNRS pour 2 ans. J'ai été détaché au CNRS pour faire des recherches sur un programme que j'avais proposé. Et puis il y a une petite magouille de la part de la commission qui recrutait qui engageait ses contrats au CNRS, parce qu'il y avait un prof qui voulait placer un autre étudiant, donc j'ai eu qu'un an finalement. Alors le ministère, ne sachant plus quoi faire quand je suis revenu, m'a dit de rester chez moi. Et donc j'ai continué à faire comme si j'avais été en détachement au CNRS chez moi, à rien faire, si je puis dire. Enfin, rien faire, en tout cas, pour l'administration, ce qui m'arrangeait bien, parce que c'est bien ça qui ne me plaisait pas trop non plus. C'est toute la partie administrative de la chose, très lourde au ministère de la Culture comme au ministère de l'Éducation nationale, et même peut-être plus. Et puis, c'est à ce moment-là, dans ces 2 années-là, où j'étais d'abord au CNRS et puis ensuite... de retour chez moi, si je puis dire, mais libre à peu près de mes engagements au ministère de la Culture, qu'on discutait depuis un moment avec Henri Galinier et les enseignants qu'il avait contactés à l'université, notamment Monique Bourin et Bernard Chevalier, qui sont vraiment les personnes de l'université qui ont vraiment permis la création de la formation d'archéologie à l'université. Et donc, on a obtenu ça en 89 plus exactement, avec la création d'un poste. Et donc, je me suis présenté quand le poste a été créé. On n'était que 2 candidats d'ailleurs, parce qu'il y avait peu de candidats d'archéologie, parce qu'il n'y avait pas de poste à l'université en archéologie nationale, ce qu'on appelait à l'époque l'archéologie nationale. C'était un terme finalement qui était... Bon, on dit ça fait nationaliste, mais bon, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est quand même l'archéologie du territoire, quoi. Et non pas des missions françaises à l'étranger, ce qui est une autre archéologie française aussi. Oui. Et donc, ce poste a été créé, j'ai été recruté dessus. C'était un poste à l'époque donc d'assistant, oui, de maître de conférence, pardon. Ça ne s'appelait plus assistant. Oui. Maître de conférence. Et donc, avec la création d'une formation spécifique en archéologie, maîtrise des sciences et techniques d'archéologie préventive. À une époque où ces maîtrises des sciences et techniques étaient assez en vogue dans différents domaines. Et donc, on a proposé d'en faire une en archéologie, et en précisant préventive. C'est-à-dire qu'on voyait bien depuis, pas 10 ans, mais pas loin, que l'archéologie préventive commençait à se développer, c'est-à-dire qu'on essayait d'intervenir de plus en plus en amont des travaux, par différentes manières, avec des lois qui n'étaient pas appropriées d'ailleurs, qui n'ont été changées qu'en 2001 et 2003. Mais on y arrivait quand même en obtenant des crédits des aménageurs. Et donc, on développait beaucoup de travaux assez importants dans la région en particulier. Et donc, on s'est rendu compte que ça se développait un peu partout, petit à petit, et pas seulement dans la région Rhône-Alpes et dans la région Centre, et qu'il serait bon de créer... justement, une formation pour les personnes qui allaient être recrutées, d'abord sous contrat à l'époque, puisque c'était recruté par une association de l'année 1 qui était auprès du ministère de la Culture, service de l'archéologie, pour s'occuper de l'archéologie préventive, qui s'appelait l'AFAN, archéologie pour les fouilles archéologiques nationales, mais qui était une association de l'année 1 de droit privé, qui recrutait sous contrat CDI, CDD, pardon, des gens pour faire les fouilles sur le terrain, puisqu'il fallait, contrairement à ce qu'on faisait avant, il fallait des personnels payés, les rémunérés, et non pas des bénévoles qui viennent quand ils ont le temps de venir. Parce que là, c'était à faire dans des délais déterminés à l'avance. Ces fouilles.
D'accord. Et donc, la fin, elle existait depuis quand ?
La fin existait, je pense, depuis le début des années 80, le début des années 80, avec la création du fonds d'intervention d'archéologie de sauvetage, pour lequel on avait proposé à l'époque une grosse opération dans la région autour de la cathédrale d'Orléans, pour lequel il y a eu parce qu'ils n'ont pas accordé d'ailleurs tous les crédits qu'on souhaitait pour cette opération au ministère de la Culture, et les aides pour obtenir les crédits des aménageurs. Si bien que moi, je m'en suis sorti, même si je suis resté en contact avec les gens qui s'en occupaient. Et ensuite, donc cette fouille a été engagée, mais avec des moyens insuffisants, si bien qu'il y a eu une des opérations qui devait se faire, qui n'a pas été faite en temps voulu. Et c'est ce qui a occasionné ce qu'on a appelé à l'époque le scandale du Campo Santo, qui est un des scandales archéologiques qui ont fait que finalement on s'est dit qu'il fallait changer les choses, et qu'il y a eu le congrès d'archéologie urbaine à Tours en 1980.
D'accord.
À ne pas confondre avec le... congrès de la création du Parti communiste de Tours, à Tours, un peu avant.
Un peu avant, un peu plus tôt.
Le congrès de Tours.
Et donc, justement, par rapport à cette maîtrise de sciences et techniques en archéologie préventive, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux comment ça s'est fait, avec qui ?
Et donc, ça a été créé en 1989, en même temps que la création du poste sur lequel j'ai été recruté. Et donc le principe était que c'était une maîtrise qui se faisait à la place d'une maîtrise qu'on fait après la licence, et ça pouvait, on pouvait la commencer même en deuxième année de licence à l'époque. Et donc, il y avait d'abord deux années préparatoires qui se faisaient en même temps qu'un DEUG, oui, ça s'appelait DEUG à l'époque.
Oui.
Ça change tellement de fois de nom que je m'y perds un peu. Soit un DEUG d'histoire,
oui,
en prenant médiéval et antique, de préférence, soit un DEUG d'histoire de l'art, également antique et médiéval, de préférence, pour les options. Mais on pouvait aussi prendre directement en maîtrise des gens qui venaient de l'extérieur. Et plusieurs années, ça a été d'ailleurs la majorité qui venait de l'extérieur, d'assez loin, parfois, parce qu'on était, pendant quelques années, la seule. Mais d'autres universités se sont dit que finalement, il y avait peut-être un filon. Et ils ont créé aussi des formations en archéologie préventive ou en archéologie tout court, à Toulouse, à Lyon et à Bordeaux, si je me souviens bien, qui n'ont pas duré très longtemps. Et finalement, on a été les premiers créés, et ceux qui ont duré le plus longtemps, parce qu'il n'y avait pas la place pour 36 formations quand même d'archéologie préventive, en tout cas, en France. Et donc, d'ailleurs, au bout de 10 ans, on s'est rendu compte que ça se tarissait, parce qu'effectivement, l'AFAN, c'était encore l'AFAN à l'époque, avait recruté pas mal de gens, qui étaient contractuels, mais qui après avaient été titularisés, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des contractuels à longueur de... pendant plusieurs années sans les titulariser. Donc ils avaient été finalement titularisés, mais toujours auprès de cet organisme AFAN, qui était toujours de droit privé, qui n'a été transformé en INRAP qu'en 2001.
C'est ça. Avec la loi, c'est au moment des lois sur l'archéologie préventive.
Oui. Qui a été modifié en 2003 par un autre gouvernement de droite. Parce que ça a été créé par un gouvernement de gauche et modifié par un gouvernement de droite. Sur des détails, mais qui ont leur importance quand même.
Et donc les personnels qui étaient sous contrat de droit privé à l'AFAN, ils ont intégré l'INRAP pour la plupart ?
Oui, pratiquement tous ceux qui étaient à l'INRAP, qui l'ont demandé, sont passés. En tout cas, ceux qui étaient titularisés, tous, et même une partie de ceux qui étaient simplement contractuels, qui arrivait à terme de la possibilité de rester sous contrat à durée déterminée et qui ont été intégrés dans l'origine. Et après, l'INRAP a continué à recruter, mais au début, il y a eu le plein nécessaire avec l'INRAP, si bien que ça s'est un peu tari à ce moment-là. Et donc, nous, on a fermé au début des années 2000, disons, ça a commencé à baisser les gens qui pouvaient être recrutés, et donc les gens qui venaient à la formation MST d'archéologie préventive à Tours pour cette formation se sont rendus compte qu'il y avait moins de débouchés, et donc on avait moins de candidats. Et donc au bout d'un moment, comme ça baissait, vraiment on a dit on va finalement arrêter là, c'est pas la peine de s'incruster, et on va transformer ça en une formation d'archéologie plus classique, entre guillemets, au moins dans la forme administrative, ça ne sera plus une maîtrise des sciences et techniques, mais une formation d'archéologie de terrain avec des stages longs obligatoires, ce qui a toujours été un problème dans l'université française, parce qu'on forme des archéologues, mais on ne les envoie pas sur le terrain. Il y a encore beaucoup d'universités qui le font. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent avec un diplôme d'archéologue et qui n'ont jamais vu le terrain. C'est quand même un peu bizarre. Ils sont plus surpris quand on les faut fouiller.
Oh ah ben oui. Et donc justement...
C'est fatigant.
Quels ont été les chantiers qui ont nourri ou servi à occuper, à faire travailler les étudiants dans le cadre de cette...
Alors on avait, à cette époque-là, justement, la possibilité, grâce aussi à la région... qui finançait, et qui finance toujours d'ailleurs, l'archéologie assez généreusement, qui avait créé cette aide, ces possibilités d'aide, justement à peu près en même temps dans les années 90, je crois que c'est 93, à partir de 93, la possibilité d'avoir des grosses opérations programmée, là, et non plus préventive, sur laquelle on pouvait former les archéologues et dirigée par des gens de l'université ou en lien avec l'université. Et donc, moi, j'ai pas pris tout de suite un chantier. Donc, je suis d'abord allé aider mes petits camarades, qui étaient Henri Galinier et Elisabeth Zadora Rio, qui fouillaient donc à Rigny-UC. Ils ont fouillé pratiquement, je crois, 10 ans à Rigny. Et là, ils accueillaient tous les étés des dizaines d'étudiants qui étaient donc dans les années préparatoires à la MST, puisqu'une fois qu'ils étaient en MST, ils allaient sur le terrain seulement là en stage long de 3 mois dans une opération préventive. D'accord. Donc la formation de terrain sur des chantiers non urgents, donc programmés, ça se faisait pendant les 2 années préparatoires.
D'accord.
Et après, j'ai pris une opération de prospection d'abord à Lezoux, qui est un gros site de production de céramique antique dans le Massif central, près de Clermont-Ferrand. Oui. Et ensuite, à partir de 1996, je me suis occupé d'une grosse opération aussi qu'on m'a proposé de me confier sur une ville romaine qui se trouve sous un village actuel dans le nord de la Lozère, qui était la capitale du Gévaudan antique, qui s'appelle Javol.
Ah oui, Javol.
Et donc, là aussi, j'ai pris beaucoup d'étudiants, dont certains sont... Bon, la plupart des étudiants qui sont passés par la MST sont maintenant professionnels de l'archéologie, la majorité en tout cas, et même plusieurs dans la région, et soit à l'INRAP, soit parfois à l'université même, pour certains... Donc,
et justement,
c'est pas mal de connaissances.
Est-ce que vous voulez
étudiants dans
évoquer certains d'entre eux? Comment étaient vos relations avec ces étudiants? Est-ce que je suppose qu'il y a des liens qui sont tissés?
Oui, bien sûr. Pendant la période de où ils étaient étudiants, d'ailleurs, bon, je faisais en sorte de leur apprendre le maximum de choses, ce qui manifestement ils ont apprécié. Mais j'ai toujours considéré, selon les bons principes de Platon, que le professeur n'est pas l'ami des étudiants. Et donc, on n'a pas à tutoyer les étudiants, donc je ne les ai pas tutoyés, mais dès que j'étais à la retraite, j'ai proposé de les tutoyer. Voilà. Mais bon, globalement, donc on leur apprenait les principes de base de la stratigraphie, de l'enregistrement sur le terrain, sur des terrains variés, parce qu'on leur disait de participer, certes, à ces chantiers qu'on organisait nous-mêmes, mais aussi, comme c'était il fallait qu'ils fassent au minimum 2 mois chaque année de fouilles pendant l'été, malheureusement, ce n'était pas inclus dans la période, mais c'était quand même inclus dans la formation, mmh. mais c'était pendant l'été, parce que ce n'était pas possible d'empiéter sur l'année universitaire. Mmh. On avait... j'avais perdu un peu le fil, qu'est-ce que je disais ?
On parlait des étudiants et de vos relations avec eux.
Oui, oui. Donc, ils avaient... je parlais de leur formation sur le terrain. Donc, j'étais en train d'expliquer quelque chose et puis j'ai perdu le fil.
Vous expliquiez leur enseignement, le fait qu'ils étaient en chantier de fouilles pendant l'été.
Oui, donc ils faisaient aussi... ces chantiers-là, mais aussi une autre fouille qu'ils choisissaient ailleurs, oui. Dans une autre région, pour voir un peu d'autres choses, d'autres périodes, d'autres régions, d'autres pratiques éventuellement de terrain, à condition que ce soit quand même des pratiques correctes, parce qu'il y a encore aujourd'hui des fouilles qui sont un peu critiquables dans la méthode. Oui. Donc on essayait quand même de les aider dans leur choix et de ne pas les laisser prendre n'importe quelle opération.
D'accord. Donc en fait, à partir du moment où vous avez été enseignant et au CNRS et à l'université, vous n'avez plus beaucoup travaillé avec la DRAC ou est-ce que vous avez continué à tisser des relations ? On continuait
quand même à travailler avec la DRAC, ne serait-ce que parce que c'est la DRAC qui donne les autorisations de fouilles donc à mes camarades pour la région, Henri Galigné et Elisabeth Zadora pour Rigny, notamment. Et moi, j'étais en relation avec les services régionaux auprès des DRAC d'autres régions, que ce soit à Le Zoo pour l'Auvergne ou à Javol avec la région qui s'appelait à l'époque Languedoc-Roussillon.
D'accord. Et le fait d'avoir travaillé au sein de la DRAC, est-ce que ça vous a facilité les choses ou pas du tout ?
C'est surtout l'expérience que j'avais de l'archéologie préventive et de ce qu'on avait essayé de mettre en place depuis, en fait, les années 70, avec Jean Chapelot, avec Demoule aussi, dans une certaine mesure, qui a été ensuite président de l'INRAP. Mmh. Cette expérience que j'ai retenue surtout de ce, mon séjour, des pratiquement 20 ans que j'ai fait de 1967, même un peu plus, oui, 67 à 89, au ministère de la Culture.
D'accord. Alors, une question un peu décalée. Est-ce que vous avez contribué ou participé à la création du musée d'Argentomagus à Argenton-sur-Creuse ?
Alors, le musée lui-même a été créé dans les années, enfin, a été construit dans les années 80. Et à ce moment-là, j'étais directeur des antiquités pour la région. Donc, évidemment, j'étais aux premières lignes pour être, si je puis dire, le correspondant pour l'archéologie régionale, mais évidemment la création d'un musée dépend de la direction des musées de France, même si c'est un musée qui est un musée municipal, en fait c'est pas un musée d'État, ouais. C'est pas un musée national, il y a quand même une intervention de la direction des musées de France dans le choix du constructeur, etc., les appels d'offres pour la construction, etc. Donc j'ai été évidemment dans cette commission et jusqu'à la construction du musée. Il y a eu des fouilles d'ailleurs préventives qui ont été faites par le futur conservateur du musée, Gérard Coulon, sur place, dont certains vestiges sont encore visibles d'ailleurs dans le sous-sol, dans la partie basse du musée.